Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel atelier du CX Summit Eloquent 2023. On est toujours sur la relation client de 2025 et dans cette relation client de 2025, on peut obligatoirement et on doit obligatoirement parler d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, j'ai deux experts sur le plateau. En premier, Sarah, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, alors je suis Sarah Martineau, je suis cofondatrice de IDETA et IDETA accompagne les entreprises dans leurs projets d'intelligence artificielle et d'automatisation depuis 2017.
Merci, alors bien entendu, IDETA est partenaire d'Eloquent sur la partie intelligence artificielle, c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui. Alors Flavien, je te laisse te présenter puisqu'en fait on voit sur ton t-shirt qu'il y a une espèce de petit chat, c'est ça?
Oui, c'est un petit chat. Voilà. Et donc moi je suis Flavien Doueto, je suis un des deux cofondateurs d'Hublot. Et Hublot, c'est un logiciel de gestion locative à destination de professionnels d'immobilier, aussi bien public que privé, qui propose en fait un outil fluide et beau, donc très UX.
D'ailleurs, vous pouvez le voir à l'écran. Là.
Pour les accompagner dans la gestion locative, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas totalement, c'est la contractualisation, mise en place du contrat de bail, automatisation de la facturation, suivi des paiements, etc. Et ça inclut l'état des lieux et également le locataire qui est souvent pas pris en compte dans le parcours utilisateur dans l'immobilier.
Oui, c'est vrai que cette profession reste encore très traditionnelle avec beaucoup de choses qui sont faites au téléphone, des échanges d'emails. Et là, en fait, vous apportez une fluidité, une rapidité qui va permettre de gagner du temps en fait, avec ces locataires. En fait.
Oui, l'immobilier, c'est un secteur traditionnel comme d'autres, hein, la banque ou encore d'autres plus classiques encore. Et ce qui se passe souvent dans l'immobilier, c'est qu'on considérait que l'expertise était basée sur un côté un peu manuel. Je peux répéter des actions. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, si je veux être efficace, je dois justement automatiser des choses qui ne servent pas à grand-chose, pré-remplir des informations pour être au contact avec de plus en plus des enjeux aussi où je dois développer mon business. Donc, je dois avoir du temps à être pour aller trouver des nouveaux clients, pas à essayer de répondre à des questions qui me demandent où se trouve ma quittance ou comment je contacte un plombier.
Voilà, et l'augmentation automatique des loyers, toutes ces choses-là, que, normalement, on essaye d'y penser, mais ça peut passer à l'as, et pourtant, elles sont super importantes parce qu'il y a des délais obligatoires chaque année, etc.
Oui, et puis là, il y a contexte macroéconomique, hein, l'inflation est de retour. Donc, ouais. Pendant très longtemps, un indice de revalorisation, c'est-à-dire fondamentalement quelque chose qui est lié à l'inflation, est-ce que je l'applique? On s'en fout quand c'est entre 0 et 1%. Mais là, on est sur des enjeux où l'indice de revalorisation, c'est 5, 6, 7%. Là où auparavant je ne faisais pas attention, maintenant je dois faire attention avec la notification pour le locataire, le suivi du calcul et l'application automatique. Avec évidemment des petites blagues parfois dans le calcul pratique, puisque évidemment, qu'est-ce qui se passe quand l'indice n'est pas disponible ou autre. C'est là où on essaye d'amener cette expertise qui nécessite un logiciel qui complète assez souvent une première approche qui peut être sous Excel.
Oui, parce qu'avec par exemple l'augmentation des charges, avec l'énergie, ça aussi, ça nécessite en fait d'avoir des trucs un peu plus précis et un meilleur suivi. Alors justement, on parle de suivi, d'automatisation, de simplicité, de fluidité. Vous, avec IDETA, vous avez mis en place ChatGPT pour automatiser une partie des actions sur le site web. Alors, vous allez nous montrer tout à l'heure un peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs, on va pouvoir le voir tout de suite sur le site internet. Quand on se connecte, on a cette petite fenêtre qui arrive et on dit « Ouh, je veux parler à un humain ou je veux parler à un robot ?» Alors, dites-nous un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui fait ce robot et quelles sont ses performances, parce qu'on verra juste après des chiffres qui sont assez impressionnants en termes de prise de rendez-vous.
Oui, en fait, un des enjeux qu'on avait assez rapidement, c'est qu'évidemment, quand on a lancé la société et le site internet, notre objectif du site internet, c'est d'obtenir de la conversion, c'est-à-dire d'avoir des leads qui prennent des rendez-vous. Ce qu'on constate, c'est qu'assez souvent, comment on incite quelqu'un à prendre rendez-vous, la problématique qu'il y a quand on est une start-up, c'est que parfois la personne ne connaît pas. Mmh. Donc la personne a une phase de recherche et soit elle va aller naviguer dans les différentes pages, mais parfois elle veut une instantanéité. Et on s'est aperçu très rapidement qu'en fait, le fait d'avoir ce bouton de chatbot incite la personne à cliquer. Et qu'ensuite, en faisant un parcours, en ayant une réflexion, on peut permettre d'augmenter drastiquement les taux de conversion. En sachant que nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en plus, il y a beaucoup de gens le week-end qui se connectent.
Ouais. Tard parce
le
que soir. C'est des particuliers. C'est des gens qui ont peut-être un travail, qui font de la gestion de location.
On en a beaucoup. On a eu beaucoup, par exemple, de personnes en Martinique-Guyane, donc même francophones, mais avec un décalage horaire important. Et il n'y a pas forcément quelqu'un derrière. Mmh. Et on s'est aperçu que justement, c'était un complément assez efficace, puisqu'aujourd'hui, avec ce qui est proposé dans l'IA générative, on arrive à avoir honnêtement des réponses assez bluffantes qui permettent de renforcer l'image. Une question assez classique qu'on a quand on est une startup, c'est qui l'a créé, qui y a derrière, quels sont vos cas d'usage, quels sont vos clients. Et en fait, en ayant une base de connaissances qui s'implémente très rapidement, on peut proposer des choses qui permettent d'avoir une augmentation assez significative, notamment des rendez-vous, qui est un élément clé dans le cadre d'une start-up.
C'est vrai qu'on va voir là quelques chiffres qui vont s'afficher à l'écran, mais dites-nous quelle est la différence entre un chat normal et un chat humain d'ailleurs et un chat GPT, parce que on pourrait se dire mais bon chatbot classique et chat GPT, qu'est-ce que ça change?
Alors déjà il y a je pense une différenciation à faire entre le live chat où ça sous-entend qu'il y a quelqu'un derrière, mm-hmm. Donc c'est impossible en tout cas à notre échelle d'avoir quelqu'un le soir ou le week-end en dehors de moi, et ensuite ce qu'on a constaté c'est l'intelligence et la capacité de donner des informations beaucoup plus pertinentes. Mm-hmm. La grande difficulté qu'il y a, c'est comment trouver quelque chose qui ne fait pas juste que répondre, mais répondre de manière un peu plus intelligente avec des choses que je lui aurais, entre guillemets, commandées ou organisées. Et ce qu'on voit la différence, c'est justement cette capacité qui a été donnée de pouvoir beaucoup mieux paramétrer le parcours, avec des choses où honnêtement, l'effet est très bluffant. Et c'est vrai que nous, sur notre site internet, on a aujourd'hui un tiers à peu près de nos rendez-vous viennent de notre site internet.
Enfin, du site web.
Du site web, dont une grande partie du bot. En fait, on a évidemment fait un grand travail sur le SEO pour avoir un référencement naturel, mais on s'est aperçu que le chatbot nous avait permis de décupler le nombre de rendez-vous. Donc Hublot, c'est à peu près une vingtaine de salariés. En un an, on a généré 1800 rendez-vous.
Oula, c'est énorme.
On est deux dans l'équipe commerciale, donc on a eu beaucoup de travail. On a parfois 5 à 10 rendez-vous par jour, donc c'est bien. Mais ce qu'on a constaté aussi, ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait beaucoup plus de taux de prise de rendez-vous sur le chatbot que sur une page CONCAC un peu traditionnelle. Vous pouvez le voir sur notre site internet, vous avez un demander une démo
qui
peut aussi proposer, mais on l'a proposé aussi dans l'élément. Et surtout, si on complète, en dehors du fait d'être l'endroit le plus cliqué sur le site, on a à peu près 10% de nos visiteurs qui vont actionner le chatbot. Ça permet de générer des conversations actives. Sur le dernier mois, on est à plus de 400 conversations actives qui permettent d'alimenter. On voit que 400 actives en jour ouvré, ça en fait quand même un certain nombre de jours. Et on considère qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui amène le plus d'éléments. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des fruits de notre travail SEO. Donc, on a de plus en plus de conversations. Et on voit que là, on a un effet de scalabilité. C'est-à-dire que là, on constate qu'on est en capacité de générer de plus en plus de visites sans nécessairement avoir de plus d'êtres humains pour les quantifier.
Justement, la question que tout le monde va se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir un chat humain? Est-ce que le chat humain est remplacé par le chatbot, enfin chatbot ou chatGPT? Et donc, est-ce que c'est plus rentable? Ça convertit plus ou moins? Qu'est-ce qui se passe en fait?
Alors, sur cette thématique-là, j'ai aussi cette discussion souvent sur le principe de la multicanalité. Est-ce qu'un canal cannibalise un autre ou le remplace? En fait, non, il s'additionne assez souvent. Donc, je n'oppose pas forcément l'agent conversationnel en IA générative par un live chat. Je pense que chacun a un avantage par rapport à l'autre. Par contre, ce qu'on constate, c'est que de répéter la même chose, d'écrire des choses avec des fautes d'orthographe ou sur des premiers éléments où c'est des questions génériques, je ne vois pas l'intérêt de l'être humain. Ce qu'on voit, c'est que l'être humain a un intérêt très fort sur l'étape d'après, qui est la qualification des éléments. Et oui, on voit, nous, les limites. C'est-à-dire que parfois, sur des questions très techniques, sur des choses qu'on vient, par exemple, de mettre en place, qu'on n'a pas eu le temps de mettre à jour dans la base de connaissances, là, l'intervention humaine est importante. Mais pour l'instant, et on a toujours des gens qui nous contactent par la page contact du site, avec un mail un peu plus traditionnel. Mais en tout cas, on voit que je pense que ce canal s'adapte très bien avec aussi certaines typologies de personnes. Moi, je vois qu'il y a des gens qui veulent une instantanéité. Il y a des gens qui veulent une réponse tout de suite. Et ça traduit aussi, pour eux, une première impression de la marque. Et ça, c'est pour moi très important. C'est que, par exemple, si on se positionne comme un acteur novateur, si on se positionne comme quelqu'un étant dans la relation client, si en fait, je ne propose pas à mes interlocuteurs et futurs clients cette réactivité, il y a un effet un peu déceptif.
Ouais. Alors justement, on parle là de ChatGPT, d'IA générative. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de cette valeur ajoutée? Parce qu'on pourrait se dire, je mets une FAQ classique. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Quels sont les 2-3 exemples qui montrent en fait la puissance de l'IA générative dans les réponses type sur le chatbot?
Alors là où on a même été impressionné, pour être honnête sur les éléments, c'est qu'assez souvent, les clients, les prospects surtout, ont des questions un peu récurrentes. Mm-hmm. On a souvent des questions sur le positionnement concurrentiel.
Ah oui?
Comment vous comparez à tel acteur. Et là, on s'est aperçu qu'en ayant mis quelques éléments, l'IA pouvait compléter les réponses avec des arguments plutôt bien faits que, je pense, on aurait eu du mal avec un interlocuteur au support qui n'aurait pas cette connaissance du secteur. Donc, on s'aperçoit que les réponses sont très efficaces pour rassurer quelqu'un sur donc les éléments de concurrence et sur les fonctionnalités. La manière dont il exprime des fonctionnalités donne beaucoup de contexte et ont un élément assez fort, je trouve. Donc on a constaté que sur des éléments concrets qui étaient des personnes qui posaient des questions sur comment vous positionnez l'histoire de la boîte ou les fonctionnalités, on était beaucoup plus pertinent finalement avec une IA générative qu'avec un support client qui serait un peu traditionnel.
Alors justement, comment vous faites pour nourrir ce chatbot d'IA générative? Est-ce que vous avez fait une page par exemple avec nous versus un syndic traditionnel, nous versus un autre acteur du secteur sur le web? Vous avez fait comment pour que ce chatbot puisse comprendre et donner des bons arguments?
En fait, on a entre guillemets entraîné, mais plutôt donné des contextes, c'est-à-dire à partir justement, on avait donc nous en interne, on utilise un outil qui s'appelle Notion, qui est un Wikipédia interne, sur lequel on avait référencé les questions traditionnelles et les réponses qu'on voulait. Mmh. Et ce qu'on a, entre guillemets, simplement fait, c'est qu'on a converti cet élément-là pour le donner à ingérer, entre guillemets, à l'IA pour que lui, ensuite, puisse reconstituer en lui donnant des cas d'usage. Si la personne est dans telle situation, donne-lui plutôt cette typologie de réponse. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de ces éléments-là, il arrive vraiment à développer quelque chose d'assez différent qui donne une certaine patte. Et justement, ça fait partie d'un des éléments. On voit qu'il y a forcément des limites ou, entre guillemets, des éléments à compléter pour s'assurer que la chose est toujours correctement cadrée. Ouais.
Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement de l'IA générative, peut-être, Sarah, tu peux expliquer que finalement, ce n'est pas très compliqué de faire avaler des choses à ChatGPT. Alors, comment ça se passe pour lui dire « ingère-moi ces documents sur les concurrents, sur des pages wiki de Notion ». Est-ce que c'est compliqué à faire? Est-ce que c'est long?
Alors, ce n'est pas compliqué à faire si on a les bons outils. Ça, c'est la première chose. Mais ce qu'il est possible de faire, en fait, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de lui donner juste du contexte. Donc, on va venir le briefer sur comment se comporter quand il a des réponses. Donc là, on va utiliser du contenu, etc. Si on veut aller plus loin, on peut venir, en fait, lui mettre des documents. Et donc là, on va lui faire ingérer nos documents internes. Donc, par exemple, nos documents RH, nos documents de support client, nos documents...
La FAQ. Des exemples de mails, comme vous le disiez.
Exactement, les trames des conversations passées, de ce qui s'est dit sur un call center ou autre. Donc, on va venir lui donner ces documents et lui faire un entraînement dessus. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est... Ou alors un site web. On peut lui donner aussi des URL pour qu'il apprenne sur ce site web. Et ce qui est important, c'est qu'on va aussi pouvoir lui donner les limites. Donc, on va pouvoir lui dire, tu as le droit d'utiliser que ces documents-là. Si c'est une question qui ne porte pas sur ce sujet ou s'il n'y a pas la réponse à l'intérieur, propose un rendez-vous. Mmh. Et il va suivre les consignes. Et c'est là où c'est très pertinent, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas que l'IA aille plus loin.
Ouais, il irait plus dans des questions génériques.
Exactement.
Et il irait raconter des
Exactement.
Choses.
Exactement. Et donc là, on peut se servir uniquement de ces bases de documents. Et c'est tout. Et ça fonctionne plutôt bien.
Ça évite le phénomène d'hallucination, comme on dit.
Exactement. Et on peut faire d'ailleurs mettre une double IA. On peut mettre une autre IA qui va venir valider les réponses. Et ça permet d'être sûr à 100% qu'il ne va pas y avoir une dérive des réponses.
Alors, est-ce qu'il y a quelques bonnes pratiques? Je crois que vous aviez parlé de la longueur des textes, de la mise en forme. Ça aussi, c'est important parce qu'on est sur une petite fenêtre, en fait, avec un chatbot. Est-ce que vous avez eu un effort particulier à faire? Ça se met automatiquement? Qu'est-ce que vous avez fait de...
Il y a un effort à faire, oui, sur le paramétrage de la longueur. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté qu'on peut avoir, c'est notamment dans le cas où on est sur mobile, on ne veut pas qu'il y ait un texte trop long. Enfin, c'est même embêtant en termes de lecture. Mmh. Donc, il y a un travail à faire, entre guillemets, du X, c'est-à-dire de paramétrage sur la longueur. Il y a un gros travail à faire sur le paramétrage même du ton qu'on souhaite donner sur les éléments. Et après, il y a un paramétrage aussi quand même en amont, quand même ça reste un chatbot, de savoir est-ce que j'ai des étapes avant d'aller tout de suite sur l'IA générative, d'aller sur des étapes de classification, puisqu'il y a parfois des éléments qui permettent de réorienter plus directement que uniquement tout de suite d'être sur le conversationnel. C'est l'équilibre qu'il faut toujours trouver entre l'utilisation tout de suite du conversationnel et peut-être un parcours utilisateur, entre guillemets, clic-bouton au préalable.
Alors, est-ce qu'il arrive souvent que les gens répondent au chat, enfin discutent avec le chatbot et ensuite se disent finalement, je veux parler à un humain et avoir quelqu'un? Est-ce que c'est plutôt rare, c'est plutôt fréquent?
Non, c'est plutôt fréquent. Donc, ils peuvent parler à un humain au travers de cliquer sur un bouton, donc cliquer une démo. Donc, on voit justement cet aspect où on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a une conversation active, ça découle, en tout cas, à très grande majorité, sur un rendez-vous. Et oui, après, il y a des gens qui nous écrivent en disant « je souhaiterais ». Soit il va préciser une question, sous-entendu, il considère que la réponse n'était pas satisfaisante, soit il veut donner lui-même un peu plus de contexte. Ce qu'on constate, c'est que souvent, après les premières questions, la personne veut un échange humain et à ce moment-là, donne vraiment
sa situation
beaucoup plus, entre guillemets, personnelle pour aller beaucoup plus loin.
Ouais, parce qu'il se dit que le robot va donner une réponse un petit peu générique, un petit peu globale. Moi, par exemple, j'ai 3 appartements, j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce que je veux être sûr que ce soit la bonne réponse, quoi?
Exactement. Il donne des éléments de compte. Parfois, il va compléter en disant comment il nous a connus. J'ai vu une vidéo sur YouTube. Mmh. Et donc, il va donner ces éléments-là qu'il ne ferait pas, je pense, naturellement dans un échange conversationnel.
Ah, donc, les deux, en fait, sont complémentaires. On ne va pas, comme vous le disiez précédemment, on ne va pas remplacer l'humain, mais on va plutôt le compléter et simplifier un petit peu son travail, c'est ça?
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est assez clair pour les gens. J'ai pas eu encore de retour qui m'avait dit qu'il avait l'impression d'aller parler à un humain ou autre. Je pense qu'ils comprennent maintenant le fait que je suis à 3 heures du matin sur un site, je réponds à une question, bah, c'est normal qu'il y ait un robot, entre guillemets, et c'est très intéressant d'avoir une capacité d'être un peu en champ libre dans ma discussion plutôt que d'être totalement embrigadé dans un parcours qui ne répond pas forcément à mon besoin.
Alors, au niveau des mises à jour, donc IDETA est une solution qui se met à jour très rapidement, très facilement, on l'a vu, hein, c'est très plug and play. Vous mettez à jour tous les combien de temps votre chatbot ChatGPT?
Alors, globalement, ce qu'on fait en termes de monitoring, chaque semaine, on va monitorer tous les indicateurs marketing, donc j'inclus le site internet, et on va regarder donc les métriques, c'est-à-dire qu'on va regarder un peu les parcours utilisateurs, et on va dire qu'on va mettre à jour plutôt tous les mois en termes de contenu, qui correspond aussi d'ailleurs à notre mise à jour, parce que nous aussi, on est un éditeur logiciel SaaS, donc on a des mises à jour, ce qui veut dire que des informations qu'on avait mises auparavant, on doit les ajuster. Donc, on va faire un ajustement qui va être basé sur soit ce qu'on constate en retour d'expérience de conversation, soit une mise à jour liée à l'utilisation de nos logiciels avec des précisions données.
Alors, pour finir sur ce chapitre-là, combien de temps ça vous prend pour mettre à jour? Parce que c'est assez facile, c'est un quart d'heure, une demi-heure, une heure?
Ah non, c'est, oui, c'est dans l'ordre de minutes. C'est pas les plateformes et les logiciels SaaS modernes ont quand même une facilité d'usage très intéressante qui fait en sorte que l'utilisateur est autonome dans la réalisation de ces
Alors, je parlais du chatbot. Hein.
Oui, aussi, j'inclus les deux.
Voilà.
Mais non, au travers du chatbot, quelques minutes pour mettre à jour les différentes informations.
D'accord. Alors là, on a vu un premier point qui est un petit peu le classique, hein, le chatbot qui va répondre, qui va compléter l'agent. On peut aller plus loin avec ChatGPT et on va pouvoir faire de la rédaction. Et vous, en particulier dans le domaine des annonces immobilières, vous avez mis en place ChatGPT grâce à IDETA qui permet de rédiger des annonces. Alors dites-moi un petit peu plus pourquoi et comment.
En fait, ce qu'on s'est aperçu en utilisant pour nous sur le site internet l'IA générative, c'est qu'on s'aperçoit que c'est un élément qui est très intéressant dans la création de contenu. On voit que ça crée des choses propres, sans faute d'orthographe. Et ce qui est intéressant quand on a accompagné nos clients, c'est que dans l'immobilier, on s'est aperçu qu'il y avait des tâches qui étaient en vocation de publication externe, mais qui n'étaient pas automatisées. L'exemple flagrant, c'est les annonces immobilières. Donc tout le monde souvent va aller sur Se Loger, Le Bon Coin ou Bien Ici pour voir. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que chaque annonce n'est pas vraiment formatée de la même manière et qu'il y a une certaine originalité, si on veut être poli, sur la rédaction. Et nous, ce qu'on a essayé de proposer à nos clients, c'est de dire, en fait, vous mettez dans le logiciel vos données patrimoine, qui incluent la localisation, les commodités,
si écoles pas loin,
les images, combien il y a de pièces, les informations de métrés, en fait, c'est des informations qu'on peut retranscrire. Et vous pouvez très bien définir un ton qui vous permette de convertir ça en une annonce qui est assez bien formatée. Parce qu'en fait, les gens, ils posent à peu près toujours les mêmes questions, mais avec une donnée qui est liée et qui est automatiquement mise à jour, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose qui permet de gagner du temps, mais surtout d'être, entre guillemets, un peu plus professionnel avec quelque chose qui est relativement cadré. Et surtout, c'est quelque chose où je crois beaucoup, où il y a une lisibilité à gagner. C'est-à-dire qu'une annonce avec une belle photo et bien rédigée, en fait, ça convertit un peu mieux. Alors, je sais que dans des zones tendues comme Paris, on se dit, c'est pas très grave. Je pense que quand même, quelqu'un qui met pas une belle photo ou un bon texte, en fait, il va pas forcément même avoir les bons candidats qu'il souhaiterait en termes de locataire.
Oui, parce que par exemple, si on s'adresse à des gens qui ont des enfants, mettre dire, tiens, c'est près de l'école, machin, qui est placé dans telle zone, etc. Finalement, on n'y pense pas si on a des enfants qui sont grands, mais si on a des enfants qui sont petits, ça, c'est un sujet cliché.
Et on l'a vu aussi sur une typologie de clientèle qui sont les institutionnels. Mmh. Les institutionnels, donc ça va être souvent des assureurs, des banques ou des fonds d'investissement, ont une capacité assez intéressante, c'est que souvent ils ont un parc qui est très bien entretenu. C'est-à-dire qu'ils vont faire des efforts d'investissement. Et étonnamment, alors qu'ils pourraient mettre en avant toutes les commodités présentes dans les espaces collectifs ou autres, c'était très peu mis en avant dans les annonces. C'est vrai également pour les promotions neuves où on propose des barbecues, des choses là-dessus, des espaces de coworking. Et quand on lit l'annonce de la location, on n'a pas forcément ces informations-là qui sont données. Et donc, c'est intéressant parce qu'on trouvait que ça permettait d'aller vraiment avancer sur des notions de marketing qui étaient peu présentes aujourd'hui dans les annonces.
Alors là, on partait quand même du principe qu'il y avait des champs à remplir. Ces éléments-là, est-ce que c'est l'entreprise qui la met dans les champs ou c'est des choses que vous allez chercher? Parce que ça, c'est peut-être l'étape d'après, aller chercher des informations pour remplir.
Alors, pour l'instant, on se base uniquement sur les informations données. Elles sont déjà assez riches parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand on veut faire un contrat de bail ou mettre en location quelque chose, il faut le DPE, il faut une description, il faut une adresse, etc. Mais vous avez raison que là, au début, on est aujourd'hui sur ce qui est donné dans le logiciel. Si on se projette un peu, la capacité de connexion à des bases externes, d'autres bases internes et encore plus, entre guillemets, Internet au sens large, peut donner des ouvertures assez intéressantes. Surtout que dans ce qu'on va appeler les zones géographiques, il y a de l'open data qui a été mis en place par le gouvernement qui est assez bluffante. Aujourd'hui, quasiment toutes les informations publiques sont disponibles, que ce soit de la crèche du coin à quelles sont les zones de transport, quels sont les travaux à envisager. Ça pourrait très bien enrichir l'annonce, en effet.
Ouais. Alors là, on a vu à l'écran un exemple d'annonce qui est comme avec un joli look, on voit la localisation et tout ça. Alors, si maintenant on s'adresse à quelque chose un petit peu plus concret, et là on parlera de l'aspect reporting. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a un certain nombre de logements en location, on aime bien savoir un petit peu combien c'est rentable, est-ce qu'il y a des gens qui nous doivent de l'argent. Parce que je pense que vous avez beaucoup de multipropriétaires dans vos clients. Alors, qu'est-ce que vous avez fait au niveau de l'IA générative avec l'aide d'IDETA?
On a pris cette fois-ci vraiment la casquette éditeur de logiciel. Et ce qu'on constate quand aujourd'hui on met à disposition un logiciel à un client, c'est qu'il veut voir l'usage.
Oui.
Et il veut sentir qu'est-ce que ça amène, comment il peut mieux suivre son activité. Et ce qui est compliqué au départ, c'est que même pour nous en tant qu'éditeur, ce n'est pas évident de savoir quelle est la métrique que la personne veut regarder. Surtout si j'ai un profil, je vais regarder d'autres métriques que d'autres. Ce qu'on a mis en place avec l'IA générative, c'est de se dire qu'au final, on peut mettre à disposition de n'importe quel utilisateur une capacité à la volée de créer des informations qui vont lui être pertinentes. Donc comment ça marche juste concrètement? La personne tape sa question. Sa question est transformée en requête. Donc souvent, c'est une requête SQL qui est le langage qui est utilisé souvent pour interroger une base de données. Et cette donnée va être ensuite transformée en graphique et en information. Et ça, c'est assez intéressant puisqu'en fait, ça permet donc à la personne de tout de suite avoir une réponse à un élément qui se pose la question. Pour nous, ça nous permet de voir les requêtes les plus fréquentes et donc de voir vraiment ce qui semblerait intéressant. Par contre, il y a quand même une limite à avoir en tête, c'est que c'est possible que si la donnée est propre. C'est toujours le même sujet sur pas mal de choses, notamment sur l'IA conversationnelle. C'est qu'à la fin, ça ne va pas faire des miracles. En clair, si vos données de base ne sont pas remplies ou mal remplies, ça ne va pas amener grand-chose en éléments. Et ensuite, va se poser la question de attention à l'extension dans une grande organisation sur le fait que n'importe qui peut aller chercher des infos et peut donner l'info. Donc, il y a un travail à faire quand même en réflexion, en complément, de se dire quelle est ma donnée entre guillemets d'or, c'est-à-dire qu'est-ce qui est un référentiel. Par contre, on s'aperçoit qu'en termes d'engagement, de rapidité, c'est des choses qui sont aujourd'hui très demandées par un utilisateur, en particulier sur la jeune génération. Aujourd'hui, quand il y a un apprenti, un stagiaire ou juste quelqu'un qui sort d'école, arrive et prend en main un outil, il est beaucoup plus intéressé par une approche conversationnelle que par les trucs ou un peu anciens,
avec des filtres.
Des filtres à la MS-DOS ou autre, qui sont performants. Mais qui ne sont pas intuitifs et pas forcément agréables. Et aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus dans une situation où les gens veulent de l'instantanéité.
Ouais, ils veulent aussi de faire leur place, parce que s'il faut faire un filtre, il faut faire le filtre soi-même, tandis que c'est vrai que si on peut poser la question et que c'est l'ordinateur qui le fait, c'est peut-être aussi plus simple.
Oui, et je pense que c'est là aussi une approche qui est intéressante en tant qu'éditeur de logiciels, si je pousse maintenant le raisonnement un peu plus loin, pas que dans l'immobilier, c'est de dire finalement, on montre aussi que ce n'est pas une boîte noire. Que les données sont disponibles, les données sont requêtables, les données sont visibles. Et ça, c'est quelque chose où je pense que de plus en plus, les utilisateurs sont sensibles sur le fait que je peux voir qu'est-ce que je fais avec, comment je peux l'interroger de manière, et sans intervention d'équipe technique, vraiment de manière autonome. Fluide et autonome.
D'accord. Bah, merci pour ce retour d'expérience. Alors, Sarah, donc d'IDETA, notre partenaire technologique pour la partie ChatGPT, entre autres. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tout ce qui est notion de ChatGPT, puisqu'en fait, notion surtout de sécurité. Et est-ce que ces IA génératives vont remplacer les IA un petit peu classiques? On a vu, on entraînait, on posait des questions-réponses.
Alors déjà sur la sécurité, qui est un sujet assez important de nos jours avec le RGPD et aussi ces craintes qui sont quand même fondées sur l'usage de nos données. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà il faut différencier l'usage par API. Donc ChatGPT, on peut l'utiliser par API pour faire des choses techniques. Il garantit, OpenAI garantit le respect du RGPD. De l'usage qu'on peut faire avec son ordinateur sur l'interface ChatGPT, où là, pour le coup, au début, toutes les conversations étaient utilisées. Quelques mois, ils ont mis en place le mode incognito, ce qui fait que ça commence à être un peu plus RGPD. Et en même temps, ils ont mis en place un formulaire de désinscription, ce qui a fait d'ailleurs que ChatGPT était avant interdit en Italie. Et l'État est revenu en arrière en disant c'est bon, il y a le mode incognito et il y a ce respect de formulaire. Donc il y a toujours une ambiguïté en tout cas sur l'usage de ChatGPT directement sur l'interface. Ça, même si il y a de plus en plus de choses qui font que c'est RGPD compliant potentiellement. Mais si on veut aller plus loin dans la sécurité, on peut utiliser par exemple Microsoft Azure OpenAI, donc les modèles d'OpenAI mais sur Azure, et on va rester dans son cloud privé chez soi. Les conversations vont être sur notre cloud personnel et donc forcément il y a une très grande sécurité.
Si je donne des informations, si je donne des données, une FAQ, des données personnelles, ça ne va pas être partagé, va être gardé juste pour moi et personne n'aura accès en requêtant mais qui sont les clients d'IDETA et on ne pourra pas.
Ils ne sauront pas. Donc ça permet vraiment d'avoir, quand on est une entreprise, de sécuriser, et ça c'est très important. Est-ce que les IA classiques sont mortes? Je pense pas du tout. Quand on parle d'IA classique, dans du conversationnel, on parle de détection d'intention. Et quand je détecte cette intention, je vais donner une réponse précise. Ça peut être utile quand on va être quand on veut garantir la réponse exacte. Donc par exemple, je sais pas, quelqu'un est en dépression, il dit à l'IA qu'il est en dépression. J'ai envie de garantir la réponse parce que ça doit rentrer dans dans ce qui a été défini par la partie RH. Je vais pouvoir mêler de l'IA classique et de l'IA générative en fonction du cas d'usage. Et ça, c'est assez important de l'avoir en tête. C'est aussi moins cher. L'IA classique est moins chère. Elle est potentiellement plus rapide sur certains axes.
Alors, moins cher, qu'est-ce que ça veut dire?
Moins cher. Par exemple, si on prend ChatGPT et qu'on prend une conversation à peu près de 5 messages, en moyenne, ça va nous coûter 0,5 centimes par conversation. GPT-4, qui est le modèle quand même beaucoup plus performant, ça va coûter 15 centimes par conversation. Donc ça commence déjà à avoir un petit poids. Mais ils ont sorti un tout nouveau modèle, miraculeux, qui là fait que la conversation, elle descend à 0,15 centimes. C'est GPT-4 Turbo. Donc là, ça devient beaucoup plus viable pour une entreprise d'utiliser ces modèles-là, même à grande échelle. Mais donc ça reste quand même cher. Là où en fait avec des IA classiques, ça va être très peu cher. Donc c'est pour ça que c'est bien de les combiner, que c'est bien de savoir que ça règle un vrai cas d'usage et que c'est pas du gadget. Donc je pense que les IA classiques ne sont pas mortes. Ça répond à une question de rapidité, à une question de coût. Mais les IA génératives offrent de nombreuses fonctionnalités bien plus incroyables.
Alors justement, on parle beaucoup de ChatGPT, c'est ce que vous choisissez en priorité parce que, on l'a dit, c'est sécurisé avec Azure OpenAI, ses performances, ça évolue extrêmement vite. Alors quelles sont les quelques alternatives, ce sont les noms, on a parlé de Bard tout à l'heure, quels sont les autres outils qu'on pourrait mentionner?
Ouais. Alors en tant que Français, on est un peu malchanceux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir utiliser, mais de manière un peu, par exemple, si on veut utiliser Bard Palm 2, il va falloir demander à Google, donc Bard c'est Google, le modèle derrière Bard qui est l'équivalent de ChatGPT de Google, c'est Palm 2. Palm 2 en fait va falloir demander, faire une requête à Google, et en plus il va falloir être américain ou se faire passer pour américain avec un VPN et être sur des serveurs américains. Donc en fait nous quand on le teste chez IDETA, c'est par le biais de serveurs américains, donc on ne peut pas le proposer à des entreprises françaises par exemple. Ouais. Donc ça c'est assez contraignant. On peut parler de Llama, Llama 2 de Facebook, qui là est open source et vraiment très bien quand on va être sur des problématiques de on-premise, sécurité de la donnée. Par contre, ça va coûter très cher à mettre en place parce que ça demande beaucoup de DevOps. Parce qu'il va falloir, et de GPU, donc il va falloir avoir des gros serveurs.
Alors pour les profanes, DevOps et GPU, GPU c'est des puissances processeurs,
exactement.
Et DevOps c'est l'installation sur les serveurs et de la maintenance.
Oui.
Donc on veut dire que c'est pas comme Azure OpenAI où ça s'ouvre assez facilement.
Oui, exactement, donc ça va coûter très très cher à mettre en place, donc il faut vraiment que ça réponde à une problématique. Et après, si on veut aller un peu plus vite, on peut utiliser par exemple Hugging Face qui va proposer du Llama de manière un peu plus packagée. Mm-hmm. Et donc ça va permettre d'aller plus vite, mais ça restera plus cher à mettre en place que du OpenAI.
Ou il y a Claude aussi, on peut en parler.
Claude, c'est pareil. Claude, à l'heure actuelle, on pouvait le tester. Donc, c'est ChatGPT, mais version Anthropique. Anthropique qui est financé en partie par Google et maintenant AWS. Claude, maintenant, en tant que Français, on ne peut même plus l'utiliser. Même avec un VPN, il demande un numéro de téléphone américain. Donc, c'est vrai qu'il y a des... À l'heure actuelle, en tant que Français...
il n'y a plus beaucoup de choix.
Il n'y a plus beaucoup de choix, mais... De toute façon, au niveau performance, pour l'instant, GPT-4 est un des meilleurs. Enfin, faut en être. Enfin, les innovations sont ultra rapides, la génération d'images, la génération de, enfin, le fait de pouvoir analyser des documents. Enfin, on est.
C'est le top de la technologie.
Pour l'instant, en tout cas.
Par contre, vous, bien sûr, vous êtes agnostique en termes de technologie et vous adaptez totalement à ce que propose le client. Et vous avez votre propre IA classique interne.
Exactement. Nous, on a toujours fait le choix d'être multicanal et multi-IA pour répondre aux problématiques de nos clients, et donc c'est assez transparent pour nos clients.
Alors justement, quels sont tes conseils pour mettre en place un projet d'IA générative? Alors je parle de projet parce que c'est un peu ce qu'on a l'habitude de nous, en tout cas un outil, parce qu'on ne va pas forcément passer dans un gros mode projet comme on avait le cas auparavant avec un chatbot un petit peu classique ou un callbot un peu classique.
Alors c'est vrai que si on passe par de l'IA générative, la mise en place va être beaucoup plus rapide parce qu'en fait on va justement prendre tous les documents internes, prendre des URL et faire un entraînement de cette manière-là. Donc ça va être, donc on gagne énormément en temps. Par contre, il faut faire du coup très attention aux données qu'on donne. On a un client dans l'éducation qui est revenu vers nous en disant non mais la réponse fournie par le chatbot est fausse,
et là on dit c'est le chatbot qui a fait l'erreur.
Là l'IA n'a pas fonctionné, et donc on a regardé un petit peu avec eux, et au final en regardant sur leur site internet, l'IA avait juste utilisé une donnée qui était dans son apprentissage via le site internet, et en fait la donnée était donc fausse et il resserre cette donnée. Donc ça c'est quelque chose par contre à faire très attention, c'est que la donnée initiale est très importante. Là où dans un projet plus classique, on recréait les données vu qu'on créait les intentions et les réponses.
C'était à jour parce qu'on venait de le faire.
Exactement. Donc là, il y a cette notion de données qui doit être très propre. Il y a cette notion où ce que fait Hublot, mais il faut demander la satisfaction au client. Et s'il n'est pas satisfait, faire un passage à l'humain. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que dans iData, il y a une partie live chat. Et on peut aussi connecter son propre live chat quand on travaille avec d'autres entreprises. Mais ça, c'est assez important parce qu'en fait, si on veut satisfaire à 100% son client, il faut pouvoir avoir une transition vers l'humain. Et ça, c'est vraiment important. Donc, c'est plutôt mes retours, c'est vraiment la donnée et la satisfaction.
Et le deuxième point, troisième point, est-ce qu'il ne faut pas mixer, comme on l'a dit tout à l'heure, les IA classiques génératifs pour éviter ces hallucinations, pour border un peu les réponses ou sécuriser les réponses?
Alors ça va toujours dépendre en fait de son cas d'usage. Si on est sur un cas d'usage très marketing, pas forcément. Enfin, il va être en capacité. Si on est sur un cas d'usage où on va venir traiter des problématiques qui peuvent être très stratégiques, c'est vrai que c'est important de se dire sur telle question, j'ai envie d'avoir telle réponse et telle réponse précisément. Et donc là, on peut venir faire à la fois de la détection d'intention avec des IA classiques et à la fois de l'IA générative. Et c'est vrai que c'est un très bon combo et ça réduit aussi les coûts, forcément, de pouvoir faire les deux.
Alors comment ça se passe? Parce que le client, lui, il a juste un seul chatbot en face de lui. Est-ce qu'il s'en rend compte que c'est une IA classique ou c'est ChatGPT qui répond?
Alors, nous, on a aussi la capacité de mettre des bulles de délai. Donc en fait, certains de nos clients veulent que ce soit que ça fasse très humain. Et donc, eux vont mettre des bulles de délai pour voir que la personne écrit.
Comme si on tapait,
exactement. Donc, il y a moyen quand même de simuler très fortement le fait que c'est un humain. C'est pas forcément ce que je recommande parce que de toute façon, les gens qui utilisent un chatbot, ce qu'ils veulent, c'est de l'instantanéité, de la rapidité. Et donc, au final, je pense que la question n'est pas est-ce que c'est un humain ou pas, c'est est-ce que j'ai ma réponse. Mm-hmm. S'il a sa réponse, il sera satisfait. S'il n'a pas sa réponse, il ne sera pas satisfait, que ce soit un humain comme un robot.
D'accord. Alors, on a parlé un petit peu de la gestion de projet. Alors, comment ça se passe? Parce que tu as dit que c'était comme 30 fois plus rapide ou X fois plus rapide de faire un chatbot avec ChatGPT. Comment ça se passe de manière concrète, une gestion de projet classique de chatbot en IA générative, et combien de temps ça dure?
Alors, ce qui va prendre un peu de temps, mais qui est surtout du côté de l'entreprise, ça va être par exemple le design. Il va falloir, surtout si on est sur un canal web, il va falloir designer la pop-up, choisir les codes couleurs, etc. Mais ce n'est pas la partie désagréable. Mais en tout cas, ça peut prendre un peu de temps. Et après, il va y avoir de réunir tous ces documents et de vérifier la validité de ces documents. Et donc ça, c'est vrai que ça peut être un peu plus lent. Mais une fois qu'on a ça, on les ingère dans l'IA. On fait un entraînement et donc très rapidement, on a son chatbot. Là où avec une IA classique, il va falloir détailler toutes les questions-réponses pour chaque cas, mettre des phrases d'exemple pour chaque cas. Et c'est là où, même avec de l'IA classique, l'IA générative peut être très performante, c'est qu'on peut demander à l'IA générative, génère-moi des phrases d'exemple, génère-moi la réponse. Et l'humain va venir valider la réponse. Donc vraiment, combiner les deux, on gagne du temps. Donc combiner les deux, c'est très bien. Mais un projet qui est 100% IA générative, il peut être fait en 15 jours. Là où un projet IA classique va prendre au moins 2 mois. Et il va falloir continuer d'entraîner le chatbot dans le temps.
Alors, il y a une question qui va sans doute arriver dans le chat, c'est pour ça que je l'anticipe, le chat live, là. Comment on fait si ChatGPT se trompe? On lui donne des documents et finalement, entre deux documents sur la facturation, il y en a deux qui peuvent être relativement proches et il va peut-être alterner de l'un à l'autre. Comment on fait pour corriger et se dire, ah non mais... Comme c'est lui qui devine à partir des documents, comment on fait dire, mais non, mais c'est pas ça qu'il faut répondre, c'est l'autre FAQ ou c'est l'autre page web ou c'est l'autre document?
Alors, on a le cas, par exemple, pour un client qui est dans le retail et qui a énormément de fiches produits. Et donc, il voulait que si la personne dise j'ai un four, de telle référence, savoir s'il est électrique ou pas électrique, ou etc. Et donc, en fait, s'il va chercher l'information directement dans les documents, il va avoir cette information-là sur chaque fiche produit. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, et tout ça, en fait, c'est des projets sur mesure. Donc, en fait, on va pouvoir faire des arborescences un peu spécifiques. Mais là, ce qu'on a mis en place, c'est qu'en fait, il va d'abord chercher la fiche client, enfin la fiche produit en l'occurrence, et ensuite il va lire à l'intérieur de cette fiche produit. Et là, on peut tout à fait faire ça en fait, et on peut aussi faire un enchaînement d'IA, c'est-à-dire qu'on peut faire une première IA qui va avoir pour rôle de faire telle chose, donc par exemple demander un email, et elle va persister jusqu'à obtenir son email, et ensuite passer à l'étape d'après qui est je vais chercher la fiche client, et ensuite passer à l'étape d'après, maintenant dans cette fiche client, tu dois faire telle chose. Et ça, on peut tout à fait orchestrer un ensemble d'IA qui vont en fait venir... dialoguer ensemble. Et de la même manière, quand on est sur des questions beaucoup plus stratégiques, problématiques, on peut avoir une dernière IA qui va vérifier que la réponse est bien conforme à certaines contraintes que l'entreprise pourrait mettre. Et si elle n'est pas conforme, elle ne l'est pas envoyée. On dit votre requête sera donnée à un humain ou autre.
Alors, au final, donc, on est une quinzaine de jours. Est-ce qu'il y a toujours comme cette phase d'entraînement derrière? Est-ce que c'est toujours vraiment 15 jours, ça y est, c'est clé en main?
Alors, je pense que ça peut même être moins. Non. Non, mais je pense que c'est plutôt... c'est comme tout, ça reste... alors, je vais dire vivant, c'est un peu de la provocation, mais dans le sens où il va falloir quand même continuer de l'entraîner. Donc, quand il y a une passation à l'humain, que l'humain reprend la conversation et répond, c'est important du coup de se servir de cette réponse pour la remettre dans l'IA. Et c'est en ça que sur les premiers mois et après peut-être tous les trimestres, il est important de suivre le chatbot pour pouvoir en fait entraîner l'IA au fur et à mesure du temps et être particulièrement vigilant à des nouveautés internes. Et c'est là où aussi ça demande quand même un petit peu de temps côté entreprise.
Ouais, c'est ce que je disais.
Exactement, parce qu'il peut y avoir des choses nouvelles. Alors une fonctionnalité, elle ne la connaît pas immédiatement, ce n'est pas grave. Mais je ne sais pas, une entreprise qui se fait racheter et que l'IA n'est pas au courant, et que ça crée en fait quelque chose d'un peu compliqué. Donc ça, c'est une chose assez importante à faire attention.
Ok, alors le dernier point qu'on va nous poser, et c'est pour ça que je l'anticipe encore une nouvelle fois, c'est ok, on a vu qu'on lui donne des modèles d'email, on lui donne des FAQ internet, on va lui donner des informations, mais quid des données de mon CRM, des données de mon ERP? Alors, est-ce que ChatGPT peut aller rechercher des informations ou alors c'est le chat IA classique qui va jouer ce rôle?
Oui. Alors, en fait, les deux sont possibles, mais en tout cas, ce ne sera pas l'IA directement. Ce sera de l'automatisation, exactement, qui va aller chercher, donc via API, on va aller chercher l'information. Par contre, ça peut être l'IA qui déclenche cette automatisation. Et donc, dans ChatGPT, il y a ce qui s'appelle des call functions, et la call function va dire, OK, j'ai détecté que la personne voulait telle chose. Un solde bancaire. Hop, je me connecte, je vais à la bulle solde bancaire, et la bulle solde bancaire va faire appel à l'API, va être connecté à la banque et va pouvoir avoir le retour. Donc en fait, c'est plutôt une orchestration, mais l'IA en elle-même n'est pas capable d'aller chercher toute seule. Et d'ailleurs, tant mieux, en tout cas pour l'instant. Mais ça va être plutôt de l'orchestration de bulles et d'actions qui vont être faites en parallèle.
Alors, pour ceux qui nous suivent à distance, les bulles, en fait, c'est bien sûr l'interface de IDETA qui permet d'aller configurer le design conversationnel.
Exactement.
Il n'y a pas de bulles Internet. Merci à vous deux. Je pense que Chantal va nous dire qu'il y a pas mal de questions qui vont arriver. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer peut-être par la petite question pour le concours et ensuite, on va passer à la séance questions-réponses. Alors, comment on fait pour gagner le magnifique livre de la marque, Le Management de l'Insatisfaction?
Eh bien, on pose ses doigts sur le clavier et on répond à cette question. Citez-nous au moins deux noms d'IA générative qui ont été cités lors de cet atelier.
Trois quand même.
On verra. Trois, ce sera. S'il y en a qui peuvent en donner trois, ils passent en premier.
Je l'ai dit, on a déjà un, donc c'est pas très compliqué. Allez, deux ou trois. Trois, allez Chantal, on va faire quelque chose un peu dur.
Alors, c'est parti.
Allez, trois. Alors, on va peut-être passer à la session de questions-réponses.
Alors, il y a Céline qui demande comment alimenter ChatGPT de manière pertinente pour générer des réponses clients pertinentes, sans pour autant donner à ChatGPT des infos stratégiques qui passeront d'une certaine manière en open source.
Si on est une entreprise et qu'on utilise Microsoft, je recommande d'utiliser du coup directement l'API de Microsoft, Azure OpenAI. Exactement. Et donc là, toutes les données qu'on va donner resteront dans son cloud, dans le cloud d'entreprise. Et donc ça, c'est vraiment important de faire ça. Ensuite, si c'est un usage par contre de ChatGPT via l'interface, là, c'est important d'aller dans ses paramètres et d'aller cocher l'option pour ne pas conserver l'historique des conversations.
Alors, petite précision, donc, comme nous on travaille avec IDETA, il faut se dire que là, quand on parle d'interface ChatGPT, c'est l'interface grand public. Dans le chatbot, bien sûr, on utilisera Azure OpenAI pour que les données soient totalement privatisées. Donc, il faut vraiment distinguer l'usage vraiment du chatbot et l'usage personnel de mon entreprise. Et là, c'est cette fameuse case à cocher. Mais dans le cas en fait, d'un chatbot IDETA, il n'y a pas de partage des données avec tout le monde.
Question suivante, donc je pense que ça va être pour Hublot Immo. Quel pourcentage représente les interactions gérées par l'IA chez vous?
Alors si je reprends un peu les grandes métriques, aujourd'hui on a 10% des utilisateurs, donc des visiteurs pardon, du site qui vont cliquer sur le chatbot et aujourd'hui on a à peu près la moitié qui vont faire l'objet d'une conversation relativement active. Donc, on devrait dire qu'on est sur un taux de conversion à peu près de 5% de l'ensemble des visiteurs, mais qui est assez important en termes de volume. Sur le dernier mois, on est à plus de 400 conversations IA actives avec un interlocuteur.
Okay. Une question qui découle un petit peu. Mesurez-vous le taux de satisfaction de vos clients après une interaction avec l'IA? Y a-t-il une différence par rapport à une interaction avec un agent?
Alors oui, alors c'est un des points, ce que mentionnait aussi Sarah, ça c'est important, et c'est vrai d'ailleurs pour à peu près tout, hein. Je pense que mesurer la satisfaction client après une interaction, c'est hyper important, et on a constaté en effet que la perception était légèrement supérieure, donc on a des petits effets de smiley, donc je pourrais pas vous donner un chiffre, mais je pourrais dire que le sourire était un peu plus grand de la satisfaction, et je pense que ce qui est clé, c'est que ça répond à un besoin d'instantanéité, de prise en compte d'une situation un peu plus personnelle en termes de réponse. Et c'est, je pense, que ça qui est vraiment demandeur, c'est le fait d'avoir une réponse très rapide. Si je reformule, c'est assez clair que les gens qui interagissent avec l'IA sont plutôt satisfaits, comme ce qu'ils pourraient avoir avec un contact humain.
D'accord. Donc, le taux de satisfaction qui est quand même relativement proche, ce qui change pas mal, parce que ce matin, on a vu élu service client de l'année qui nous disait que la satisfaction moyenne, c'était de 81% et les chatbots classiques, IA classiques, étaient à 54%, donc quasiment deux fois moins. Donc, on voit que l'IA générative permet drastiquement d'augmenter ce niveau de satisfaction.
Ok. Une petite question, je pense, pour IDETA. Pierre, vous arrive-t-il de déconseiller la mise en place de l'IA générative? Si oui, dans quel contexte?
Alors, ça nous est arrivé, enfin, ça nous arrive principalement dans des contextes pour des entreprises plutôt dans la sécurité nationale. Donc, on va potentiellement. Alors, après, on pourrait faire de l'open source, mais c'est des coûts très élevés. Donc, aussi, il y a une question de budget. Si on ne peut pas utiliser des modèles open source, on recommande de faire de l'IA classique et de bien entraîner son chatbot. Et donc ça, c'est très pertinent. Après, il y a aussi des chatbots sans IA. Et ça, il ne faut pas oublier que ça peut répondre aussi à un besoin qui est, quelqu'un arrive sur mon site, je veux juste prendre sa question, enfin, avoir son nom, son prénom, sa question, son email, et ensuite, je m'en sers en interne. Il n'y a pas besoin d'IA si on a juste envie de traiter la demande a posteriori. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. L'IA générative n'est pas la réponse à tout. Néanmoins, elle facilite quand même beaucoup les choses. Et quand on parle de personnalisation, ça va vraiment venir générer, englober la réponse en s'adaptant à l'utilisateur. Donc, c'est vraiment très performant pour ça.
Autre question. Quelle réaction des équipes lors de la mise en place d'une IA générative et quel accompagnement au changement?
Est-ce qu'on va piquer mon job, c'est ça?
Alors, étonnamment, moi, j'ai constaté un écart, on va dire, qui peut être un peu générationnel, sans trop critiquer. C'est qu'en fait, chez la population plutôt jeune de l'équipe, c'était plutôt l'excitation, en disant « Oh, ça a l'air intéressant !» Et donc, il y avait une volonté d'aller même plus loin, de tout bien comprendre. Bah, en fait, ils trouvaient ça un peu ludique de se dire « En fait, je peux paramétrer beaucoup de choses, je peux aller un peu plus loin. » Il y a aussi une découverte de la puissance du paramétrage. Au début, on se dit « Ah, en fait, je peux aller encore plus loin dans l'utilisation en paramétrant. » Et à l'inverse, c'est vrai qu'il y a un enjeu de conduite du changement. Alors, pour être honnête, au sein du Blo, pas tant que ça, mais on peut le voir chez des interlocuteurs que je connais dans le secteur de l'immobilier, où oui, il y a systématiquement la même approche. C'est-à-dire qu'au début, on se pose la question si mon job est à risque et qu'on ne perçoit pas forcément au début le gain de temps que je vais avoir pour faire éventuellement des choses, entre guillemets, plus intéressantes dans l'élément. Mais ce que je constate, c'est que je pense que sur de la jeune génération, au contraire, c'est un élément de motivation. C'est-à-dire qu'une entreprise qui met en place de l'IA générative, elle est perçue comme innovante et elle voit un côté où on utilise quelque chose qui est moderne en termes d'outils. Et c'est aussi important de le répéter, c'est un outil. Ce n'est pas quelque chose qui va remplacer l'humain, ce n'est pas quelque chose qui est miraculeux. Par contre, c'est un outil moderne qui est logique aujourd'hui d'utiliser dans le service client.
D'accord. Alors Chantal, encore une petite question, parce que le sujet de l'IA, c'est…
Une petite dernière. Alors, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, mais je la pose quand même. La chute du niveau d'orthographe est-il un bénéfice que vous mettez en avant pour pouvoir déployer l'IA générative auprès de vos clients?
Ouais. Évidemment. Alors, il n'y a pas que les, enfin, il y a les fautes d'orthographe, mais il y a aussi toutes les personnes qui, en fait, où la relation client est sous-traitée dans d'autres pays. Et donc, forcément, ils n'ont pas le même niveau de français. Enfin, c'est évident. Et donc là, c'est forcément en plus de faire appel à l'IA générative. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, on peut être sur de l'IA générative qui soit instantanée, donc la réponse va être donnée par l'IA, mais on peut aussi être sur de la génération de brouillon. Et donc ça va permettre de générer un brouillon et l'humain va rester toujours présent pour venir valider la réponse, l'adapter potentiellement et l'envoyer. Et donc ça réduit de manière drastique les fautes d'orthographe, les fautes de français, enfin les tournures qui peuvent être pas forcément très françaises. Et donc ça, c'est assez important. Et le point aussi de l'IA générative, c'est que par exemple, si on prend GPT-4, c'est multilingue et ça traite plus de 200 langues. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas forcément à l'aise dans toutes les langues. Et donc, en fait, dans des langues qui ne seraient pas la nôtre, qu'on maîtrise un petit peu, etc., ça va permettre de fournir une réponse qu'on va être en capacité de valider, mais qu'on aurait sans doute mal écrit, vu que ce n'était pas notre langue maternelle. Et donc, ça, c'est vraiment un très bon relais pour aider et soutenir dans la pratique de la langue.
D'accord. Alors, moi, je vais terminer par une dernière question qui va être, en fait, quelles sont pour vous, en fait, les évolutions parce qu'on voit que l'IA générative va extrêmement vite. On a vu donc le texte, on voit les images, maintenant la vidéo aussi qui arrive. Quelles sont pour vous les évolutions à anticiper et quelles vont être les prochaines applications de ChatGPT au-delà du chat? On aurait pu également aussi parler de Callbot, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais quelles sont pour vous les tendances à anticiper et qu'est-ce qu'il faut, pourquoi une entreprise se dirait « Waouh, il faut que je me lance maintenant sur les IA génératives ».
Alors, je pense que dans les innovations à venir, il va quand même y avoir l'aspect de la rapidité, parce que là, on a encore, enfin, plus le modèle est conséquent, plus ça va prendre un peu de temps. Donc, on joue un petit peu sur les trois petits points d'attente, sur le texte qui arrive au fur et à mesure. Mais donc, ça va être quand même, ça paraît pas une innovation incroyable, mais d'un point de vue technique, c'est incroyable de pouvoir réduire ce délai sans cesse. Dans les innovations, il va y avoir aussi la lecture d'images. Enfin, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, ils sont en capacité de générer des images. Mais on va voir que quand on cherche à exprimer exactement ce qu'on souhaite avoir, c'est pas tout à fait ça. On va pas avoir exactement ce qu'on souhaite avoir. Donc là, génération d'images, il va y avoir du progrès à venir.
Bon, je prendrai mon téléphone et je prends cette petite zapette. Je me dis, mais j'ai un problème ou avec cet outil-là, comment le faire pour réparer?
Alors ça, c'est tout à fait possible en allant plus aller chercher, mais on peut déjà le faire. On peut déjà faire en fait en utilisant du Google Images, aller chercher et ensuite aller lire la fiche. Donc en fait, ça va plutôt être la combinaison. Mais je pense que par exemple avec les délais, on peut très bien imaginer des visios avec des personnes qui ne soient pas de sa nationalité et qui soient très fluides, parce que moi je vais parler en français, mon interlocuteur va entendre en espagnol et une autre personne en italien va l'entendre exactement moi parler, parce que je sais pas si vous avez vu les dernières, oui. Dernières IA génératives sur de la génération visuelle et de contenu, il y a encore une latence importante, mais dans très peu de temps, on va avoir très peu de latence et on pourra le faire en temps réel et échanger avec des interlocuteurs qui ne sont pas de notre langue. Et ça me semble incroyable dans le sens où ça va
permettre... On n'a plus besoin d'apprendre l'anglais, l'espagnol, l'allemand.
Ni l'orthographe, on en parlait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est jamais une perte. Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps les vidéos de Lina, où en fait, on voit dans le passé, quand on parlait à des gens, savez-vous ce que c'est qu'un riolet ou etc. etc., et qui ne connaissaient pas parce qu'il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore... Là, au final, chaque innovation permet de connaître aussi des nouvelles choses. Donc forcément, on perd, parce que notre cerveau est limité, on perd des choses, mais en même temps, on en gagne. Et donc, le temps qu'on va avoir en moins à apprendre l'anglais et l'espagnol, on va le développer à mieux comprendre les espagnols, à mieux comprendre les anglais, et j'espère à éviter des guerres.
Et côté Blo, quelles sont les évolutions à venir côté IA générative, par exemple? Vous avez des perspectives?
Oui, il y en a beaucoup. Dans l'immobilier, il y a un enjeu aujourd'hui sur les états des lieux et de manière générale, ce qu'on peut qualifier de la maintenance prédictive. C'est un peu ce que tu as décrit, c'est-à-dire que je prends en photo un élément. Est-ce que je peux en tirer des informations complémentaires? Donc, il y a des choses qui existent déjà sur de la labellisation. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est possible de faire un état des lieux qui dit il y a une chaise, il y a une table, etc. Mais si on veut aller un peu plus loin, c'est-à-dire à partir d'une image, comment je peux anticiper des travaux à réaliser. Donc il y a beaucoup de choses sur les éléments d'image.
Et oui, la peinture, le sol, etc.
Et après, il y a de manière générale tous les travaux qu'on peut faire toujours sur cet aspect conversationnel, sur des interrogations, sur des éléments de toujours, est-ce que tu peux me sortir l'ensemble de mon patrimoine qui est en DPEE et anticiper si je fais tel travaux. Donc il y a des choses encore à travailler en lien avec la donnée pour avoir une projection pour l'utilisateur.
Ok. Alors, qui était le gagnant ou la gagnante du livre Cet Atelier?
Alors, c'est une gagnante qui nous a bien donné trois noms d'IA générative et elle s'appelle Alizé Loyo. J'espère que je prononce bien le nom de famille.
Ben, voilà. Bravo, bravo Alizé, et vous recevrez le livre très prochainement. Ben, merci à nos deux invités pour cet atelier passionnant sur l'IA générative. Pour l'instant, on n'est pas des clones ni des hologrammes. On est encore tous en live et on parle tous français. Peut-être que dans un an, on sera à distance et on pourra parler en diffusion, en multiplex, en anglais, en allemand, grâce à l'IA générative. Donc merci à tous. On se retrouve dans 5 minutes environ pour un atelier, cette fois dédié à quelque chose qui est essentiel, c'est l'éco-responsabilité. Et là, en fait, on va voir justement comment intégrer dans sa démarche RSE et la placer dans sa relation client. Et pour cela, on va avoir le plaisir d'accueillir Greenly, qui fait des bilans carbone, aura bien sûr l'Académie du service, et ainsi Eloquent, qui vous présentera en pratique comment on met en place justement la RSE dans sa relation client. Donc à tout de suite, rendez-vous dans 5 minutes, et merci encore à tous les deux.
Merci beaucoup. Merci.